où j'ai le plaisir de recevoir rien moins que Julia Kristeva, grande admiratrice de Colette, à qui elle a consacré l'un des tomes de sa trilogie intitulée Le génie féminin. C'était au tournant des années 2000. Et c'est donc de la femme Colette, de la jouissance mais aussi de la douleur dont nous allons nous entretenir aujourd'hui. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Bonjour Julia Kristeva.
Bonjour.
Vous avez publié il y a quelques semaines un livre de souvenirs, vous dites même vous, de mémoire, intitulé « Je me voyage ». Ce sont des entretiens avec Samuel Dogg, c'est publié aux éditions Fayard. Avant de commencer cette émission, j'aimerais savoir ce que signifie ce titre « Je me voyage ».
C'est un signe un peu espiègle, j'espère, puisqu'on parle de Colette, commençons par cela, pour désigner ma singularité. On ne dit pas en français « je me voyage », « je me baigne »,« je me nourris », mais « je me voyage », ça fait paradoxal. Je voulais simplement dire que je traverse des frontières des langues, des pays, des disciplines, mais aussi mes propres frontières. Et ce voyage à l'intérieur de moi me semble indispensable déjà pour vivre, mais aussi dans notre monde globalisé où il y a beaucoup de délocalisation, on vous vire, on vous déplace, mais très peu de gens se voyagent, je pense, au sens justement intérieur auquel nous convie la lecture. Et Colette est une de ces personnes, vous avez déjà évoqué différents aspects de son personnage, qui s'est beaucoup voyagé à travers ses différentes facettes. Donc c'est une manière aussi, peut-être en évoquant mon livre, de m'inviter à voyager avec Colette et jusqu'à Colette.
D'ailleurs, dans le fanal bleu de Colette, elle fait l'éloge de l'avion dont la fonction magique est de supprimer les parcours. Donc elle se voyageait aussi par l'esprit du voyage. Elle ne faisait pas que se voyager intérieurement.
Bien sûr, elle a beaucoup bougé. Elle a voyagé dans différents pays, en France bien sûr, mais elle est allée au Maroc, elle est allée ailleurs. Elle connaît beaucoup de ce nomadisme de la modernité, contrairement d'ailleurs à beaucoup de personnes de cette époque qui étaient plus enracinées qu'elle. Et on ne s'attend pas vraiment à cela de la part de la bourguignonne qui a gardé son accent et ses racines, et c'est la française de souche, n'est-ce pas? Et moi, ce qui m'a fascinée en elle, dès mon enfance, parce que j'ai appris le français dans Victor Hugo et Colette, c'est cette espèce de liberté psychique, sexuelle, mentale, qui est une sorte d'avion, si vous voulez garder votre image de l'avion, mais qui est un avion sensoriel, qui se déplace de la bouche au toucher, à l'ouïe, à l'odorat, et c'est cette espèce d'ubiquité sensorielle qui m'a frappée. Je vous ai apporté d'ailleurs mon livre avec plein de post-it, mais on pourra pas les lire, c'est parce que je voulais qu'on se voyage à travers ces textes à elle. Mais je crois que c'est peine perdue, parce que vous voudriez qu'on discute, et on va le faire.
On va commencer par discuter, oui.
Voilà.
Vous dites que c'est un plaisir immédiat, et on parlera beaucoup de plaisir, je pense, au cours de cette émission. D'où vient le plaisir pour vous de la lecture de Colette? Est-ce qu'il est le même d'ailleurs aujourd'hui que celui que vous ressentiez quand vous avez appris le français en lisant, vous le disiez, Colette?
Moi, j'ai appris le français dans une langue qui m'a paru d'abord d'une simplicité extraordinaire, parce qu'elle parle des muguets, des roses, des enfants même. On connaît peu Colette maman, mais ça existe également. Et en même temps, ces mots tout simples sont traités de telle manière qu'on entend la sonorité. Et tout de suite, on entend aussi leur possibilité de toucher les autres sens.
Par exemple,
donc, les mots sont des métamorphoses. Je vous donne un exemple. Rose, noir, confiture, d'odeur. C'est très simple. Il y a la confiture, il y a la rose, il y a le noir. Mais tout ça ensemble touche quelque chose d'indicible et d'incandescent. Et c'est une langue qui, du coup, devenait pour moi, ce français étranger, très incarné, très proche. C'est une manière de se baigner dans le français. Elle dit d'ailleurs elle-même qu'elle s'est baignée dans Balzac et dans Proust. Moi, j'ai essayé de me baigner dans le français. Alors après, évidemment, je suis devenue linguiste, psychanalyste, philosophe, et un français plus abstrait m'a accaparé. Mais je reviens beaucoup à cela. Et donc ça, c'est le côté langue. Mais aussi, ce qui m'a fascinée dès mon jeune âge, c'est l'histoire, cette femme. Et je garde cette phrase que j'aimerais bien citer en commençant notre débat. Femelle j'étais et femelle je me retrouve pour en souffrir et pour en jouir. Que faire ? Écrire brièvement, car leur presse est mentir. Alors c'est tout, Colette.
C'est une très belle introduction au thème qui va nous intéresser aujourd'hui et qui est la femme chez Colette. Je vous propose, pour commencer, d'écouter Régine Deforge à ce sujet.
L'importance de Colette dans la littérature du XXe siècle, et je crois qu'on peut pas la remettre en cause. Je faisais allusion l'autre jour au mot méchant de Marguerite Duras, disant que la littérature de Colette c'était de l'eau de bidet, mais enfin de l'eau de bidet comme ça, on voudrait bien en lire tous les jours. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Je crois qu'elle a su parler mieux que quiconque, justement, de la femme, de ce moment où la femme va perdre cette féminité triomphante, enfin, qui était tout au moins dite comme telle au début du siècle ou jusqu'à la dernière guerre. C'est-à-dire qu'au moment où la femme vieillit, les pages du vieillissement de Léa, de l'acceptation de la vieille, sont les pages les plus émouvantes et les plus bouleversantes qu'on puisse lire là-dessus, enfin, sur la perte de la beauté, sur la vieillesse qui arrive, cet abandon, cette abnégation. En ça, elle est quand même un écrivain classique de l'univers féminin, car la femme est toujours en train d'abandonner quelque chose, ou aux hommes, ou à la vie. Léa est un exemple. Pour le bonheur de chérie, elle accepte d'être vieille et laide.
Régine Deforge, parlant de cet écrivain classique de l'univers féminin qu'est Colette. J'imagine que vous êtes d'accord avec cela. Mais il faut peut-être dire d'emblée, Julia Kristeva, que Colette n'est pas une féministe et qu'elle est même loin d'être une féministe.
Oui, j'étais sensible à ce que dit Régine Deforge, que j'ai bien connue, et je ne sais pas à quel moment elle a dit cela. Peut-être dans sa vie, elle était attirée par
C'est dans les années 70.
Oui, mais il y a en effet chez Colette une profonde tristesse, surtout en arrivant à Paris, à travers les difficultés que lui a posé le couple avec Willy, les trahisons et les blessures. Elle a dit des choses très profondes sur la mélancolie féminine. Par exemple, qu'il y a toujours dans la vie d'une femme le moment où mourir est tout juste aussi normal et séduisant que vivre. Mais je pense que ce n'est pas ça, Colette. Et je n'aimerais pas qu'on entende chez elle simplement le lamento et ce qu'on a dit autour de la femme vieillissante. C'est juste, c'est vrai. Mais ce qui la rend très différente de toutes les féministes et de celles qui ne le sont pas, mais qui appuient sur le malheur féminin. Cause importante, les femmes battues, la détresse, c'est toujours sur le devant de la scène. Colette a ceci de particulier, qu'elle a su traverser cela. Et quand je l'ai inscrite dans ma série du génie féminin, c'est pour une raison simple. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le combat des femmes ? On prend l'exemple de Hannah Arendt et on se positionne dans le politique. On prend l'exemple de Melanie Klein et on essaye de trouver la spécificité des femmes.
Donc ce sont les deux premiers tomes de votre trilogie.
Voilà. Melanie Klein s'est occupée de la psychanalyse des enfants. Donc les femmes peuvent trouver des lieux de connaissance qui sont restés plus ou moins occultes. Mais Colette est à mon sens la seule, maintenant peut-être qu'il y en a d'autres, mais à l'époque de tout le XXe siècle, qui a traversé le malheur. Et c'est quelque chose qui me paraît absolument nouveau, parce qu'elle affirme le droit et la capacité du bonheur féminin. Et c'est cette femme qui chante les roses, on a dit tout à l'heure, les animaux, le coucher de soleil, sa mère, y compris son père amputé. Et elle trouve une espèce de vivacité. Une autre citation
d'elle. Mais en quoi est-ce particulièrement féminin? Qu'est-ce que cela a de spécifiquement féminin?
Ça, spécifiquement féminin, parce que les femmes sont amenées par le métier de soins qu'elles font en tant que maman et par les épreuves dont on vient de parler et qui conduit souvent à être du côté des esclaves ou des soumis, à se battre contre cela et à survivre. Et chez Colette, il y a cette phrase: l'amour, l'affaire la plus banale de l'existence, s'éloigne de moi. Sorti de là, tout est gai, varié, nombreux. Alors c'est magnifique. Ou une autre: la mort est une banale défaite, renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces. C'est cette vitalité qui consiste à dépasser les écueils et à recommencer. On le voit dans ces mariages, dans le passage de la maternité à une sorte d'amour incestuel avec Bertrand de Jouvenel, son homosexualité. Elle ne s'arrête pas de vivre au-delà des limites.
Peut-être pour conclure sur cet aspect politique, parce que c'est vrai que quand on pense aux femmes écrivains, tout de suite, la notion de féminisme apparaît. Et là, je pense qu'il faut quand même préciser le rapport de Colette, qui était presque un antiféminisme au fond. Comment vous expliquez ça, cet anti-militantisme chez Colette?
Moi, je pense que beaucoup de femmes créatrices, c'est le cas aussi de Hannah Arendt, dans la trilogie dont vous avez la gentillesse de nous en parler aujourd'hui, ne se sont pas identifiées avec les mouvements de masse, avec le mouvement de masse qui est le féminisme. Parce que elles ont développé une liberté singulière. Et moi, issue d'un pays totalitaire, je suis de ceux qui pensent que la liberté se conjugue au singulier. Et je les comprends effrayées devant la chape de plomb qu'une communauté militante peut poser. Je crois que c'est contre cela que s'insurge Colette. Ceci dit, elle est féministe, non seulement par sa créativité qui reconnaît la mélancolie et la dépasse, mais aussi par sa lutte politique, si j'ose dire, dans le milieu du journalisme et des écrivains. Elle va vouloir gagner son pain individuellement et d'être une femme économiquement libre, se libérer de l'empreinte du mari, être journaliste pendant les guerres, une des premières, affronter le milieu masculin dans l'édition, devenir membre du jury Goncourt. Donc s'affirmer, mais en tant que féminité singulière et par-delà toute banalité. Voilà, c'est un peu ça le message. Et Simone de Beauvoir n'a pas manqué d'être impressionnée par elle. Il y a des pages très très significatives dans Le Deuxième Sexe où elle est fascinée par la liberté de Colette, cette émancipation financière des femmes et l'autonomie de la femme qui écrit et qui ne se soumet pas au code environnant. Ceci dit, Simone de Beauvoir était beaucoup plus cruelle à son égard dans sa correspondance avec Algren. Elle voyait la femme aigrie, etc. Mais c'est vengeance entre femmes. Ceci dit, donc, elle reste une icône du féminisme au sens large du terme. Pour clore ce portrait féministe et au-delà, sa portée politique, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on parle du politique, mais on voit combien le domaine du politique est devenu saturé, banalisé, et il y a ce qu'on appelle un délitement du politique. On n'y croit pas. On voit que ça n'a plus de pouvoir, ou le pouvoir n'est pas là. Et pourtant, des gestes individuels, des gestes anarchistes et libertaires, comme l'écriture de Colette, ça nous parle, et on se dit, là, il y a un souffle de liberté. Et regardez ce que dit sa mère, parce que les mères sont pas toujours gentilles avec les filles et vice-versa d'ailleurs. Mais voilà ce qu'elle écrit. « Tu es plutôt une femme comme il faut », dit Sido à sa fille, c'est sa dernière lettre, « mais d'un genre particulier. » Le genre particulier. « Tu as le talent d'écrire et d'intéresser le lecteur avec des choses, je ne puis dire des riens, car au fond ce ne sont pas des riens, loin de là. Et je dois même reconnaître que tu avances de 2 siècles à de nombreux points de vue. » C'est ça, là. La liberté, le droit des femmes d'être singulières, le droit de vivre, de chercher des jouissances nouvelles et de le donner à tous. On est à un siècle, mais bon, il y en a encore.
Alors vous dites, Julia Kristeva, que si le XXe siècle n'est pas seulement de sinistre mémoire, puisque le XXe siècle, c'est peut-être d'abord et avant tout la Shoah, eh bien il le doit au plaisir et à l'impudeur de femmes libres. Et ces femmes libres, eh bien c'est par exemple Colette. Colette est une chef de file finalement de ces femmes libres. Vous dites aussi que ce fut le privilège de Colette de savoir écrire avec son corps, avec sa chair et avec la chair du monde.
Oui.
Et je pense que c'est peut-être important que vous reveniez sur ce que signifie pour vous cette
la
notion
chair
de chair du monde chez Colette. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Elle a vécu quelque chose de magnifique en s'arrachant à sa Bourgogne natale. Et c'est un exemple encore politiquement intéressant de ce que la culture française, y compris la plus enracinée, qu'on regarde aujourd'hui avec beaucoup de circonspection et d'effroi, eh bien, cette culture-là peut porter une grande richesse de sensorialité et de liberté si on sait s'y prendre avec distance et ironie. Cette bourguignonne qui était entourée d'une mère aimante, d'un jardin, d'un père estropié de la guerre, mais un grand lyrique, elle arrive à Paris avec son mari, qui est un monsieur un peu badin et polygame, et elle vit énormément de déboires et de tristesse. Et elle arrive à se libérer de cela, en écrivant d'abord les Claudines que vous avez évoquées sans doute et qui étaient signées par son mari. Elle est donc une sorte de nègre, si je puis dire, dans son atelier. Mais néanmoins, c'est dans le langage qu'elle trouve le moyen de se libérer. Alors, ça se passe à un moment très précis. Elle fait une maladie psychosomatique quand elle découvre les différentes infidélités de Willy. Et avant de trouver, et tout en trouvant la possibilité de faire face en devenant la maîtresse de ses maîtresses, ou homosexuelle, ou mère incestuelle de Bertrand, tout en menant ce côté érotique de sa vie, elle est entourée d'écrivains, parmi lesquels Max Schwab, qui lui donne à lire un texte de Oscar Wilde, La Rose et le Rossignol, et elle écrit un texte, Les Vrilles de la Vigne, où elle se montre comme un rossignol qui se laisse empoisonner par une vrille qui le suffoque, qui l'étrangle, etc. Puis il se dit, ben tiens, j'ai une voix. Il commence à s'enguirlander par cette voix et à se libérer par la voix. Donc, elle a compris que c'est par le langage, mais à condition qu'il reste près du poison, mais aussi près de ses propres capacités, qu'elle va pouvoir trouver une langue qui est proche de la nature.
Donc la chair
du monde.
La chair du monde, c'est les bêtes, les plantes, les êtres qui sont, dites-vous, des éclats de liberté. Je vous propose justement d'écouter Colette lire un extrait de son texte « En pays connu » dans lequel on entend, je crois, tout un rapport au monde de l'écrivain et notamment à travers son rapport avec les animaux.
Une seule fois dans ma vie, j'ai sollicité un poste, on me l'a refusé. J'avais demandé à diriger le jardin d'acclimatation, alors que délaissé, il n'était que box pourrissant, verrière défoncée, chaume démantelé. Il abritait quelques bêtes encore, une dernière lionne magnifique, des rongeurs rongés, des cervidés peut-être, des oiseaux, je ne garantis rien. Ma demande n'eut pas le temps de prendre la voie hiérarchique. On m'avertit qu'elle n'aurait pas de suite. Je ne visais follement qu'à assurer aux bêtes captives un sort meilleur et je ne réclamais point d'honoraire. Depuis, le zoo de Vincennes a fait mieux que je n'aurais jamais pu faire et tout est bien ainsi, en admettant que tout puisse être bien. Quand il s'agit de rendre captives des créatures libres, sauvages, et de prolonger leur captivité jusqu'à la mort, dans un pays sous un climat qui ne sont pas les leurs, à qui est né pourvu de pattes pour courir, d'ailes pour voler, d'armes pour combattre, de sexe pour aimer, porter une descendance. Le meilleur de ce que nous pouvons offrir semble une dérision.
Vous écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Colette avec Julia Kristeva. Cette chair du monde, Julia Kristeva, c'est cela, cet amour de la nature, aimer caresser les animaux, aimer regarder les belles choses que la nature nous offre, c'est une jouissance de tous les sens.
Tout à fait. On a beaucoup parlé de cette identification qu'elle a pu accomplir dans son moment de tristesse et de mélancolie. Personne ne m'aime, il n'y a que les plantes et les bêtes. Cette identification avec la nature. Les humains, c'est les trahisons, les jalousies, les blessures. Il nous reste les animaux et les bêtes.
Il n'y a pas un côté un peu misanthrope là-dedans? Voilà.
Non, mais je pense que ce n'est pas exactement ce qu'elle a vécu. Elle a vécu une espèce de grave mélancolie, une sorte de dépersonnalisation. Il n'y a pas de moi, le moi est ridicule. Je n'aime plus d'ailleurs, je vais écrire autre chose que l'amour. Et à ce moment-là, elle utilise cette espèce d'anthropomorphisation des bêtes et des plantes pour parler de sentiments extrêmement subtils. Quelque chose qu'on peut appeler une sorte d'anonymat de moi. On est dépossédé de son moi, de son narcissisme, de ses désirs mondains, etc. Et on parle des choses les plus fines, les plus des sensations les plus archaïques, on peut dire, qui révèlent en nous notre généalogie du côté des bêtes et jusqu'aux plantes. Et c'est ça qui est fascinant chez elle. Voyez.
Mais c'est vrai qu'elle n'était pas mondaine, par exemple. Elle n'aimait pas la mondanité.
Elle était mondaine aussi et n'a pas du
tout. Par obligation, non ?
Oui, mais en même temps, c'était quelqu'un de très intelligent. Rusé, il a utilisé toute la belle époque, il a utilisé les Goncourt pour se faire une place sur le soleil. La paysanne a triomphé sur Paris. Non, il ne faut pas négliger ce côté-là. Non, mais elle est baudelairienne. Vous vous souvenez de ce texte de Baudelaire dans Paradis artificiel où on parle des achichams. On lui regarde un arbre et le poète médiocre se compare à l'arbre. Mais le vrai poète, il devient l'arbre. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une comparaison, c'est une métamorphose. Il se vit comme l'arbre. Donc, elle ne projette pas sa mondanité sur les plantes et les bêtes. Elle s'identifie, elle est là.
Elle aurait pu fuir un petit peu à travers les plantes et les bêtes, le reste des humains, c'est ça.
Le côté mondain, le côté artificiel, le côté méchant, etc. Mais elle trouve chez les bêtes aussi bien des monstres. Mais je vais vous lire une chose sur les bêtes.
Et ça ne la dérange pas d'ailleurs.
Ça ne le dérange pas parce que tout en entrant dans cette complicité tendre et fine des bêtes et des plantes, j'aimerais vous donner une lecture d'un texte sur les muguets, comment elle devient muguet. Et en même temps, elle a besoin des monstres. Et la monstruosité des bêtes lui parle aussi.
Oui, elle retrouve une certaine cruauté qui est peut-être sa cruauté aussi.
Mais oui, mais c'est une cruauté qu'elle préfère. Et elle va préférer les criminels aux mondains. Parce qu'elle elle est allée 4 fois au procès de Landru. Elle lui a donné, elle lui a dédicacé un livre. Et elle cherche le monstrueux. Elle pense parfois que le criminel est plus intéressant que le juge qui trouve des arguments délirants. Donc, tout ce qui est artificielle et convenue, la dégoûte et la bête, elle va la célébrer jusqu'au dans l'œuf. Il y a une phrase de Cocteau qui est très juste à cet égard. Si Madame Colette n'était pas un monstre, elle ne serait rien. Donc, elle n'évite pas la monstruosité. Mais je voudrais insister sur ce côté infusion du soi dans le naturel. Regardez par exemple comment elle décrit le muguet. Je tâte timidement. J'invente un rapport indicible entre la goutte laiteuse des muguets, le pleur de pluie tiède, la bulle cristalline qui monte du crapaud. Vous voyez, c'est cette espèce de dissémination où il n'y a pas de Colette, il n'y a pas de Madame Willy. C'est une sensorialité qui se diffuse du crapaud à la pluie et à la goutte d'eau. Et c'est le muguet.
Sensorialité.
Et c'est aussi la chair du monde.
La chair du monde.
Mais qui trouve ces mots, qui ne sont pas des métaphores, elle devient le muguet.
Et aussi la sensualité, comme dans Les vrilles de la vigne.
Il n'y a dans notre maison qu'un lit, trop large pour toi, un peu étroit pour nous deux. Il est chaste, tout blanc, tout nu. Aucune draperie ne voile en plein jour son honnête candeur. Ceux qui viennent nous voir le regardent tranquillement et ne détournent pas les yeux d'un air complice. Car il est marqué au milieu d'un seul vallon moelleux, comme le lit d'une jeune fille qui dort seule. Ils ne savent pas ce qui entre ici, que chaque nuit le poids de nos deux corps joints creuse un peu plus sous son linceul voluptueux, ce vallon pas plus large qu'une tombe. Oh, notre lit tout nu. Une lampe éclatante penchée sur lui le dévêt encore. Nous n'y cherchons pas au crépuscule l'ombre savante d'un gris d'araignée que filtre un dé de dentelle, ni la rose lumière d'une veilleuse couleur de coquillage. Astre sans aube et sans déclin, notre lit ne cesse de flamboyer que pour s'enfoncer dans une nuit profonde et veloutée.
Extrait des Vrilles de la Vigne, lu par Viviane Théophilides. Comment entendez-vous cet extrait, Julia Kristeva?
Je pense que c'est un exemple parmi mille d'autres sur, concernant cette extraordinaire sensualité qui passe à la nature, qui passe à travers tous ses sens au cosmos, mais dont la grande magicienne est la maison gérée par sa mère. Il n'y a pas Colette sans Sido.
C'est la psychanalyste qui parle.
Non, c'est elle qui parle parce que, vous savez, les Claudines n'ont pas de mère. Elle a passé 20 ans, 30 ans de son œuvre sans parler de sa mère. Et c'est seulement dans la maison de Claudine, en 22, qu'elle commence à parler de sa mère et après il y aura Sido. Mais je voudrais donner juste une description de ce monde floral qui est ombiliqué, si j'ose dire, autour de sa mère. Parce que ça chante la rose et ça chante le bébé, dans un même paquet de phrases autour de la mère. Elle lui donna, elle c'est la mère, une rose cuisse de nymphe émue. C'est un mot de plante qu'elle trouve, qu'elle invente. Elle lui donna une rose cuisse de mère émue, qu'il accepta, le bébé, avec emportement, qu'il apporta à sa bouche et suça. Puis il pétrit la fleur dans ses puissantes petites mains, lui arracha les pétales, débordés et sanguins, à l'image de ses propres lèvres. La mère qui donne la fleur du bébé, qui la mange, les lèvres de la rose deviennent des lèvres de bébé, elle est dans cet univers qui passe de l'humain au floral et qui tourne autour de cette perception intense, jalouse et envieuse, mais aussi cannibalisée de la mère.